Les sentiers du sauvage. Henry David Thoreau écrit : Je me retrouvais soudain le voisin des oiseaux. Non que j'en ai emprisonné le moindre, mais parce que je m'étais moi-même mise en cage dans leur voisinage. Rencontre avec Amandine Théou et Enzo Vignon à Bourou.
Amandine Théou, donc je suis responsable de l'antenne de la Ligue pour la protection des oiseaux sur le département de la Dordogne. On est installé depuis 2017 sur la commune de Bourou et on travaille sur tout ce qui est expertise, oiseaux mais aussi chauves-souris, papillons et libellules. Et puis on a tout un côté formation, animation, sensibilisation de différents publics, grand public et public scolaire notamment. Dans la nature où je me sens le mieux, ça va être plus lié à la présence des espèces qu'à un paysage en particulier, mais voilà, j'aime bien les paysages de plaine agricole où il y a un beau cortège dans le sud-est du département notamment, un beau cortège d'espèces d'oiseaux, voilà, alouette des champs, caille des blés, le bruant employé qui chante assez souvent. En mars, avril, voilà. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup de son et c'est très agréable.
Enzo Vignon, je suis animateur nature pour l'antenne de Dordogne de la LPO d'été Aquitaine depuis fin 2019. Et moi, pour pas redire la même chose, je vais plutôt partir sur les zones de falaises avec des rivières qui passent en fond, comme on a pas mal dans l'est du département, qui sont des paysages que j'avais pas trop l'habitude de voir avant d'arriver en Dordogne, et qui sont aussi très riches. On peut retrouver le faucon pèlerin, le grand-duc, le ticodrome, toutes les espèces qui sont inféodées aux falaises, qui sont à la fois intéressants d'un point de vue naturaliste, et puis qui offrent des jolis paysages qui me changent peut-être un peu plus de ce que j'avais l'habitude de voir ailleurs.
Pour ma part, j'ai toujours été beaucoup dans la nature, beaucoup à l'extérieur. Tous mes temps libres, c'était à l'extérieur, en forêt ou à m'occuper des animaux. Donc voilà, ça a été vraiment le premier lien avec la nature, d'écouter, de sentir, de toucher tout ce qu'il y avait autour de moi dans la nature.
Et moi, mes premiers souvenirs dans la nature, ça va être beaucoup avec mon grand-père. Et j'allais pas mal me promener dans les monts qu'il y avait autour de chez moi, donc beaucoup dans les forêts qui sont sur les coteaux, à ramasser les champignons, à écouter les oiseaux, à aller se promener, se balader, puis arriver sur les plateaux avec des landes où on voyait derrière en fond de vallon les endroits où on habitait, et le jeu c'était d'essayer de retrouver un peu la maison d'où on était parti à la base. Je pense que c'est ça mes premiers souvenirs de nature et ce qui m'a donné envie derrière de m'y intéresser un peu plus.
Alors pour moi, la biodiversité de proximité, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup en tant que professionnel, plus que même la biodiversité de proximité et les espèces qui étaient communes autrefois diminuent. Mais au point de vue personnel, ça va être tout ce qu'il y a autour de chez moi, autour de mon habitation, tout ce que je peux voir tous les jours et puis comment améliorer justement les 2 hectares de prairies sur lesquelles je vis pour accueillir de nouvelles espèces et conforter les espèces qui sont présentes dans le temps.
La biodiversité de proximité, déjà j'aurais tendance à dire qu'on a quand même de la chance malgré tout d'avoir encore une belle biodiversité de proximité, contrairement à d'autres endroits où, même si en Dordogne elle n'est pas dans un état parfait, mais elle est quand même dans un état de dégradation qui est bien inférieur à ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et après, bon, ça va être une biodiversité un peu plus urbaine, qui va être beaucoup plus riche au printemps et à l'été avec l'arrivée des hirondelles, des martinets dans les villes, et qui va se faire un peu plus discrète en hiver.
Elle est en danger dans le sens où on parle beaucoup des espèces en danger, en diminution, et on va souvent sur des espèces emblématiques, typiquement en Dordogne, hein, le grand-duc et le pèlerin. Par contre, voilà, les espèces que l'on côtoie tous les jours, et notamment en ville, mais même à la campagne, les moineaux domestiques, les martines noires, les hirondelles, c'est des espèces que connaissent très bien les gens, mais voilà, s'il y a un nid qui dérange ou des fientes ou des salissures qui sont entraînées par ces espèces-là, Malheureusement, la plupart du temps, les gens n'hésitent pas à dégrader ou à casser les nids. Donc, pour moi, elle est quand même en danger. Mais ces dernières années, on en parle de plus en plus. Et ça, pour le coup, c'est un point positif de parler de cette biodiversité ordinaire et proximité que l'on côtoie tous les jours.
Ouais, je suis assez d'accord. D'autant plus que c'est des espèces où il est quand même plus difficile de mobiliser les gens. Ça peut être un peu plus compliqué de les amener à s'émerveiller devant un moineau que devant un milan. Et pourtant, c'est des espèces qui ont leur place tout autant que les autres et qui, pour certaines, sont même plus menacées que certaines espèces devant lesquelles on pourrait mobiliser des moyens un peu plus faciles. Donc c'est une biodiversité sur laquelle il y a pas mal d'enjeux aussi, de faire prendre conscience aux gens que cette diversité-là aussi, c'est pas parce qu'elle est proche de nous qu'elle est pas fragile et qu'il faut pas la protéger.
Alors moi j'ai plusieurs exemples, on travaille beaucoup sur des programmes agriculture et biodiversité, où l'idée c'est de travailler sur un territoire avec les agriculteurs, le lien entre biodiversité et agriculture, et aussi avec les citoyens du territoire et les enfants, donc via des animations scolaires. Et on travaille avec les enfants, et c'est des fois le moyen de raccrocher les parents ou les adultes à des thématiques qui les importent peu, mais quand on arrive à sensibiliser les enfants dans les écoles et qui reviennent à la maison avec un discours et puis une envie de poser un nichoir pour telle ou telle espèce, souvent on arrive à toucher les parents beaucoup plus facilement. On a eu le cas sur un programme où on travaillait avec un agriculteur qui n'était pas très disponible dans le cadre du programme pourtant pour lequel il avait accepté de participer. Et on a eu la chance d'avoir son fils à l'école dans le cadre des animations, dans le cadre du même programme. Et du jour au lendemain, à partir du moment où son fils a été sensibilisé, on a réussi à contacter son père, qui était agriculteur, avec qui on travaillait, et il a pu y avoir des actions mises en place grâce notamment à la sensibilisation de son fils. Donc voilà, et des exemples comme ça, il y en a souvent, donc ça c'est plutôt positif. Et c'est aussi pour ça qu'il faut sensibiliser les enfants.
Ouais, c'est un aspect qui est assez essentiel pour la simple et bonne raison que déjà on peut protéger et être sensible qu'il y a des choses qu'on connaisse. Ça peut paraître bête, hein, mais tant qu'on n'est pas capable de mettre un nom sur ce qu'on voit, bah, c'est beaucoup plus dur de l'observer, de l'apprécier. Quand on ne comprend pas exactement ce qu'on voit, c'est plus dur de se rendre compte de la fragilité qu'il peut y avoir derrière. Et c'est quelque chose qui est assez essentiel parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Moi, je le vois assez souvent quand on fait des animations dans les écoles. Tous les enfants, quand on leur parle des animaux sauvages qui les entourent, quand on leur propose de sortir, de s'intéresser à ce qui les entoure, d'en apprendre un peu plus sur ces oiseaux, ils sont toujours extrêmement curieux, ils sont toujours hyper attentifs, hyper intéressés. Et c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure. Et pour l'avoir vu aussi, c'est beaucoup plus facile de parler, d'échanger de sujets de biodiversité avec quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste, mais qui a eu l'habitude, même si c'était il y a très longtemps, quand il avait 10-12 ans, de se promener en forêt, de profiter d'une jolie prairie dans laquelle il y avait des papillons. Bah, ces personnes-là, quel que soit leur métier derrière, quand on va leur reparler de ces enjeux-là, ça va faire résonner quelque chose en eux. Là où quelqu'un qui aurait toujours grandi au milieu du béton et qui aurait jamais vraiment pris conscience ou pris le temps de s'émerveiller de la biodiversité, quand on va essayer de lui en reparler, quand il a déjà un certain âge, qu'il est déjà dans une activité professionnelle, on va avoir une réception qui est bien moins importante parce que c'est quelque chose qui n'a jamais compté pour lui, à laquelle il n'a aucune attache émotionnelle. Et finalement, il va juste voir la contrainte que ça engendre et pas toute la beauté qu'il y a sauvegardée derrière, en plus de l'intérêt pour l'homme de la biodiversité. Quoi.
Oui, après, voilà, moi j'ai aimé être à l'extérieur, j'ai aimé les animaux. Quand j'étais à l'école, on m'a dit « t'aimes les animaux, tu feras zoologue, donc bac plus 8 ». Bon, j'étais assez moyenne à l'école, donc je me suis dit « bon, alors là, c'est déjà mal parti ». Et puis après, j'ai découvert l'existence du BTS Gestion et Protection de la Nature. Et là, ça a vraiment fait résonance en moi. Enfin, je me suis dit « c'est vraiment ça que je veux faire ». Et puis de rencontrer aussi d'autres personnes qui sont passionnées comme nous, d'échanger, de se dire « Ah bah il y en a d'autres qui sont comme moi, c'est super !» Parce que sinon, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident d'avoir des gens qui sont passionnés comme ça. Et donc voilà, là, ça a vraiment révélé, en gros, ma passion. Et à partir de ce moment-là, je me suis pas du tout posé de questions autres que continuer là-dedans. Même si c'est un parcours un peu compliqué, parce que c'est même avant de trouver un travail là-dedans, c'est déjà beaucoup d'investissement personnel, puisque en plus des cours, il faut aller dans des structures, suivre des professionnels pour commencer à apprendre les chants d'oiseaux. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, les chants d'oiseaux, reconnaître les libellules, les papillons, c'est pas du tout dans le cursus scolaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire à côté. Et c'est en faisant plein de bénévolat à droite à gauche dans des associations, en ayant de l'expérience comme ça, en plus du reste, qu'on arrive à vraiment trouver un travail là-dedans. Et effectivement, comme le disait Anzo, c'est vraiment une implication personnelle très importante. Parce qu'on fait des horaires qui sont... Voilà, on se lève tôt le matin pour écouter les oiseaux. Des fois, on a un peu de route, donc on peut se lever à 4h30 tous les matins au printemps. Et puis nous, on travaille sur les chauves-souris, donc des fois, on termine à 4h du matin aussi. Donc on n'enchaîne pas les deux, bien sûr, mais voilà, c'est quand même des amplitudes horaires importantes. Et puis ça reste une passion. Donc quand on a des gens qui nous contactent sur des sujets et que malheureusement, on n'a plus le temps de travailler dessus, ben, la plupart du temps, on essaye quand même d'y travailler en plus. Donc voilà, ça fait beaucoup de travail, mais ouais, c'est une passion. Donc...
Alors, il y a deux choses. Il y a un changement entre les générations. Si on prend des générations plus anciennes, ils avaient une certaine connaissance de ce qu'il y avait dehors. Ils savaient à peu près ce qui les entourait. Mais en revanche, ils avaient peut-être beaucoup moins conscience de l'impact qu'avaient leurs actions et de la fragilité qu'avait ce qui les entourait, cette nature qui les entourait. Et à l'inverse, aujourd'hui, on a une espèce d'inversion. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quelle école, dans n'importe quel collège, vous parlez de dérèglement climatique, de tri des déchets, d'économie des ressources, c'est des choses qui sont acquises et actées pour la plupart, pour tout le monde. Mais en revanche, il y a une déconnexion avec la nature, avec ce qui nous entoure. Donc en fait, c'est un petit peu paradoxal. On a à la fois une génération qui n'a jamais été autant consciente des problématiques de biodiversité qui peuvent exister, et en même temps, c'est aussi une génération qui est peut-être beaucoup plus déconnectée, de par plein de raisons, hein, mais quand pendant des années, on a essayé de transmettre le fait qu'il fallait protéger la nature en montrant des choses dans des livres, une photo en papier glacé sur un livre aura jamais le même impact et la même accroche que de le vivre vraiment en situation réelle, d'aller en extérieur, de le voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui se perd. Et il y a c'est un exemple que je prends souvent, mais il y a aussi une déconnexion assez importante des enfants du milieu dans lequel ils vivent. Même, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est propre à la ville, mais même dans des zones très très rurales, on a des enfants qui connaissent parfaitement la faune de la savane, le lion, le zèbre, l'antilope, la gazelle, pas de souci. En revanche, des fois, faire la différence entre un cerf et un chevreuil, savoir ce qu'on peut trouver dans le ruisseau qui passe derrière l'école, ça, pour le coup, on n'en a aucune idée. Moi, c'est des choses qui me sont arrivées, hein, dans une école, une toute petite école très rurale, en plein milieu de la Corrèze. On faisait un travail sur la rivière, et quand on leur a demandé ce qu'il y avait potentiellement dans la rivière derrière, on a eu des crocodiles, on a eu des baleines, on a eu des hippopotames, mais en revanche, très peu nous ont parlé d'un... Ouais, quasiment aucun élève a pensé à nous parler de la truite, du sanglier, du chevreuil qui pouvait venir s'y abreuver, des libellules, enfin voilà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important.
La Ligue pour la protection est une association nationale qui a été créée il y a plus de 100 ans. Et au niveau local, il y a des antennes et des délégations territoriales qui existent. Donc on est... Moi, je travaille depuis 2009 à la LPO DT Aquitaine. J'étais basée à Bordeaux avant. Et puis, au fur et à mesure des années, on a eu de plus en plus d'études en Dordogne et de plus en plus de demandes, puisqu'on a aussi, vu que c'est une association, on a une grosse force bénévole. On avait beaucoup de bénévoles en Dordogne qui nous demandaient de plus en plus d'être présents en tant que salariés sur le territoire. Donc en 2017, on a monté cette antenne en Dordogne. Et la LPO travaille sur plusieurs thématiques, suivant les territoires, il y a des thématiques qui sont plus ou moins développées. On travaille sur tout ce qui est expertise, connaissance, recherche, sur différentes thématiques. Ça peut être sur la forêt, sur les milieux agricoles, sur les énergies renouvelables. Là encore, ça dépend du territoire. Par exemple, en Dordogne, on travaille un peu moins sur les énergies renouvelables. Par contre, on a beaucoup de programmes en agriculture et biodiversité, un petit peu en forêt aussi dans le nord du département avec le PNR Périgord-Limousin. Et puis après, on a toute la partie donc formation, sensibilisation sur différentes thématiques. Et ce que l'on va un peu moins avoir aussi en Dordogne et qui est un peu plus au niveau national, c'est tout ce qui est gestion de site. Où là, pour le coup, en Aquitaine, on n'a pas du tout cette partie-là. Gestion de sites et notamment des réserves naturelles nationales. On a différents programmes. On a des programmes avec Agrobio Périgord où là, forcément, c'est des gens qui sont en agriculture biologique. Mais les programmes que l'on a, nous, et que l'on mène au niveau de la région en Nouvelle-Aquitaine, on est plusieurs antennes à travailler sur ces programmes-là. On travaille, la seule... ce qu'on demande, c'est que les agriculteurs soient volontaires pour travailler avec nous. Qu'ils soient en bio ou en conventionnel, ça ne nous importe pas du tout. Mais on veut juste qu'ils aient envie de travailler avec nous et qu'ils aient envie de faire des choses. Parce que on a un des programmes où on nous a mis un peu les agriculteurs dans les pattes. Et en fait, ça ne fonctionne pas. On n'arrive pas du tout à les... On n'arrive pas déjà à les contacter. On n'arrive pas à passer chez eux. On n'arrive pas à échanger avec eux. Et la base de ces programmes-là, c'est vraiment d'avoir un échange avec les agriculteurs. Ces derniers temps, on n'arrête pas de leur dire que c'est de leur faute si tout dégringole. Et c'est vrai, puisque le constat est là. C'est les pesticides, notamment, qui entraînent la diminution des populations d'oiseaux. Mais à force de leur dire ça, en fait, ils font plus du tout d'efforts. Et l'idée de ces programmes-là, c'était de leur dire, surtout en Dordogne, où c'est quand même encore assez préservé, même s'il y a aussi des espèces qui diminuent et qui disparaissent, c'est quand même assez préservé. Et c'était de leur dire, notamment dans le sud-est de la Dordogne, il y a encore énormément d'enjeux ornithologiques chez vous. Vous avez plein d'espèces sur vos parcelles. Et donc l'idée, c'était d'échanger avec eux, de leur montrer ce qu'ils avaient chez eux pour qu'ils aient envie de le protéger. Jusque-là, voilà, on leur disait, c'est de votre faute, il n'y a plus rien chez vous. Donc ils faisaient leur truc sans faire attention et puis ils ne se posaient pas de questions. Et là, c'est les amener à se poser des questions, à montrer les espèces, à expliquer comment est-ce que les espèces vivent sur leur parcelle. Et c'est même eux, des fois, qui nous disent, mais alors si je fais ça plutôt comme ça, ça permettra de préserver l'espèce un peu plus. Voilà, donc là, quand on en arrive là, c'est que vraiment le programme est réussi. Et dans le cadre de ce programme-là, notamment agriculture et biodiversité à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a quand même des beaux résultats, que ce soit via les enfants qui après permettent de toucher un peu plus les parents, ou vraiment les échanges avec les agriculteurs qui sont vraiment positifs dans l'ensemble.
Et du coup, à l'échelle de l'antenne de Dordogne, moi, quand je suis arrivé, l'idée, c'était qu'il y avait déjà une bonne activité sur les parties expertise, recherche. Et c'était de développer un peu plus le côté animation, sensibilisation du grand public et des scolaires. Il y avait déjà un peu de sensibilisation au grand public qui était faite. Mais l'animation, notamment auprès des scolaires, c'est quelque chose qui demande quand même... C'est un poste à part entière, ça demande du temps pour développer les animations, prendre en compte dans les animations à la fois les messages que nous on veut transmettre et les attendus du programme scolaire, parce que l'idée c'est pas juste de poser une animation comme ça et puis que ça fasse un peu tâche dans l'année. L'idée c'est de pouvoir vraiment le lier au programme pour que des enseignants qui voudraient tourner toute une partie de leur programme autour d'un projet et pouvoir faire autour du français, des maths, des sciences, de la géographie, ce soit possible. Donc l'idée, ça a été de développer cette partie-là et puis qui a plutôt très bien prise. Et donc ça nous permet d'intervenir sur diverses thématiques, que ce soit sur les oiseaux évidemment, les oiseaux à la mangeoire, les chants des oiseaux, mais aussi on élargit un peu à d'autres types d'espèces. Avec des animations qui peuvent porter sur le hérisson, sur les insectes. Voilà, et on s'adapte aussi en fonction de ce que des envies des instituteurs et institutrices qui nous contactent. S'il y a des gens qui ont des projets très particuliers, on peut aussi les développer. Et puis l'idée, c'était aussi de faire le lien entre ce qui est fait en expertise et l'animation scolaire. Typiquement, sur les programmes culture et biodiversité, on sait systématiquement en plus de, du travail et de l'accompagnement qui est fait auprès des agriculteurs, de lier les citoyens du territoire et les scolaires du territoire à ces projets-là, pour que tout le monde puisse comprendre un petit peu ce qui se passe sur le territoire, quel impact ils peuvent avoir aussi, eux, en tant que scolaires, citoyens, agriculteurs, quels peuvent être leurs leviers d'action à leur échelle s'ils veulent s'engager pour protéger la biodiversité et donner un sens plus global que juste, entre guillemets, faire une étude qu'on décorrèle complètement du territoire.
Ouais, dans ces programmes-là, en fait, les agriculteurs sont aussi des gestionnaires d'espace puisque c'est eux qui diversifie les habitats. Ils ne seraient pas là, ce serait de la forêt partout. Hein. Donc voilà, les habitats agricoles qu'ils produisent ou qu'ils modèlent font qu'il y a des espèces qui sont là et qui sont présentes. Voilà, s'ils arrêtent leur activité, il n'y aura plus les mêmes espèces. Donc c'est aussi ça, les valoriser dans ce sens-là.
Bah, c'est vraiment l'idée de ce programme-là. D'où l'intérêt aussi d'aller faire des animations scolaires, des animations grand public. C'est un peu de sortir de cette image caricaturale qui est que s'il n'y a plus rien dans les champs, c'est à cause des agriculteurs. C'est vrai, mais du coup, le pendant, c'est aussi que du coup, s'il reste des choses dans les champs, c'est grâce aux agriculteurs. C'est facile de dire que c'est la faute des agriculteurs, mais les agriculteurs, s'ils produisent d'une certaine façon, c'est parce qu'on consomme d'une certaine façon aussi. Et c'est aussi l'idée de remontrer, de remettre un peu au centre de tout ça que bah, nos choix en tant que consommateurs définissent aussi quel type d'agriculture va être privilégié. Et après, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un regard manichéen et d'arriver en disant qu'on possède la vérité, c'est plutôt d'amener les gens à avoir leur conclusion à eux, quelle qu'elle soit, mais de le faire de manière éclairée. Et de pas dire... voilà, de pas juste pointer du doigt un peu facilement les agriculteurs, mais de se dire que... bah, eux aussi, ils peuvent, s'ils veulent à leur échelle, très bien influencer et qu'en fonction de ce qu'ils vont retrouver dans leur assiette, dans leur frigo, ils vont pouvoir avoir un impact positif ou négatif sur la biodiversité dans la façon dont ils ont de consommer aussi. C'est l'idée de montrer cette interdépendance qui, si elle peut être destructrice, elle peut permettre aussi de renforcer ou en tout cas de préserver ce qui existe encore à l'échelle du territoire.
Et c'est vraiment dans tous nos programmes, on travaille beaucoup avec Terre de Liens aussi, avec les fermiers Terre de Liens, et c'est vraiment des tests. Pour ceux qui sont en tout cas ouverts à ça, on leur dit bah, si vous voulez, on teste des choses chez vous et on va voir ce que ça apporte par rapport à la biodiversité. Et ce qu'il y a de bien avec la biodiversité, c'est qu'elle est résiliente, qu'elle s'adapte très vite et que d'une année sur l'autre, on peut avoir des résultats assez. Alors, ça ne va pas être statistiquement tenable, entre guillemets, sur le court terme, mais par contre, visuellement, ça va se voir. On a travaillé avec des fermiers Terre de Liens, là, ou sur une prairie, sur une parcelle de luzerne, au moment de la fauche, ils ont laissé une grande bande, c'était une parcelle de 6 hectares, donc ça commençait à être gros, ils ont laissé une grande bande de luzerne non fauchée tout le long de la parcelle. Et ça a permis de maintenir les papillons qui étaient sur la parcelle entière, sur cette bande-là. Donc on a fait des transectes et il y avait énormément de papillons sur cette bande-là. Et les agriculteurs, de voir ça, de le faire avec eux, de leur montrer, disent « Ah oui, bah du coup, voilà, ils laissent maintenant des bandes de 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, sans se poser de questions, c'est rentré dans leurs habitudes. » En Dordogne, on a la chance d'être assez autonome et de développer vraiment des programmes qui nous paraissent avoir du sens. Même personnellement, c'est aussi pour ça qu'on est motivé et qu'on est toujours là, je pense, c'est qu'on développe vraiment des choses qui ont du sens pour nous et puis plus globalement aussi.